clôture le week-end dernier du dialogue social organisé à Walikale par le gouvernement provincial du Nord Kivu pour éradiquer l'insécurité dans ces territoires. Parmi les recommandations, les participants appellent notamment les miliciens locaux à déposer les armes et à cesser sans condition les hostilités afin de rétablir la paix sur toute l'étendue de Walikale. Comment analyser les recommandations issues de ces forums? Nous en parlons avec Madame Marie-Claire Bangouéné. Elle est administrateur du territoire de Walikale. Bonsoir Madame Marie-Claire Bangouéné.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Prince Kiangi, secrétaire général de BDOA, Bureau d'études et d'appui au développement du territoire de Walikale. Bonsoir Prince Kiangi.
Oui, bonsoir et salut à tous les auditeurs de la radio Kasi.
Et ici au studio, c'est Maître Juvenal Mounoubou Moubi, il est député national de l'opposition élu de Walikale, il est cadre de l'UNC. Bonsoir Maître Juvenal Mounoubou Moubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un dialogue social a réuni du 14 au 16 août dernier les ressortissants de Walikale au chef-lieu du territoire. C'est sous le thème « Paix et sécurité dans les territoires de Walikale ». Plus de 300 personnes issues de diverses communautés de Walikale y ont pris part. Bernardine Diambou était notre envoyée spéciale sur place et s'entretient avec Kelly Nkouté.
Bernardine Diambou, bonsoir.
Bonsoir Kelly Nkouté.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dialogue social qui a réuni les natifs de Walikale?
Je souhaiterais d'abord donner des petites précisions. Lorsqu'on parle des communautés autochtones de Walikale, on voit deux familles, les Nyanga Bunakima et les Lusu Bakano, principalement. Mais aussi, à ces assises de Walikale Centre, on a noté aussi la présence de certaines personnalités du monde politique et diplomatique, des responsables politico-militaires et administratifs, et les membres du comité territorial de sécurité de Walikale. Tous ont participé activement à ces assises qui ont duré 3 jours et qui se sont clôturées dimanche dernier par un culte œcuménique suivi d'une caravane motorisée.
Vous avez couvert l'événement sur place à Walikale Centre. Pourquoi les natifs de Walikale sont-ils allés se réunir à Walikale au lieu de Goma, par exemple, qui est un grand centre?
D'abord, il faut préciser que ce dialogue est l'initiative propre des fils et filles de Walikale. Et selon les organisateurs, cette rencontre a eu lieu à un moment particulièrement éprouvant à Walikale. Et du fait de la recrudescence de l'insécurité due à l'activisme des milices dans certaines parties du territoire de Walikale, notamment dans les groupements Waloa Uroba, Waloa Luanda, Waloa Yungu, Utunda, Iyana, Kisimba, Ikobo, Bakano et Bakonjo. Ce dialogue pour eux est une prise de conscience de chacun afin d'analyser la situation et trouver des pistes de solutions afin d'éradiquer ces phénomènes groupes armés locaux qui sévissent dans leur territoire. Et parmi les causes, les participants citent également, entre autres, les conflits liés au pouvoir coutumier et foncier, l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins reculés du territoire, l'enclavement, etc., etc.
Alors, après avoir analysé les causes de l'insécurité, quelles sont les pistes de solutions proposées par les participants à ces assises?
Bon, les communautés de Walikale ont pris un acte d'engagement avec les clauses telles que demander à nouveau à leurs enfants impliqués dans les groupes armés de quitter ce mouvement et de se réorienter vers la vie normale, militaire ou civile, selon les dispositions déjà envisagées et mises en œuvre par le gouvernement de la RDC. Ils ont aussi demandé aux familles et aux clans ayant encore des enfants dans les groupes armés de rester actifs pour les aider dans ce processus de reconversion. Et enfin, ils sont engagés à faire de leur mieux pour être aux côtés de leurs fils libérés. C'est en assurant un encadrement normal comme des bons pères de famille.
Merci beaucoup Bernardine Diambou pour tous ces détails et bonne soirée à Goma.
Merci.
Merci à Bernardine Diambou et Kelly Nkouté. Madame Marie-Claire Bangouéné, je rappelle que vous êtes administrateur du territoire de Walikale. Qu'est-ce qui a motivé la tenue de ces dialogues sociaux à Walikale?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de commencer, je salue l'honorable Juvenal Mounoubou ainsi que tous les auditeurs. Donc, ce qui a fait que ce dialogue ait lieu, c'était la recrudescence de la situation sécuritaire, surtout dans certains milieux de Wali-Calais, comme vient de le dire Madame Bernadine. Donc, dans ce groupement, il y a eu recrudescence de la situation sécuritaire et la situation humanitaire occasionnée par les fils du milieu. Donc, ces fils du milieu ont créé des groupes armés. Début, ils disaient qu'ils étaient en train de chasser les êtres de l'air, qui était un groupe armé étranger. Mais on s'est étonné de voir qu'ils commençaient à s'entretuer entre eux-mêmes et à occasionner les déplacements massifs des populations. Donc, c'est ce qui a fait que les communautés de Wali-Calais se sont mises sur une table avec les autorités provinciales et territoriales pour voir si, dans quelle mesure on peut, en tout cas, demander à ces jeunes gens de déposer les armes et de quitter la forêt. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, on est en train de les sensibiliser. Le gouvernement avait demandé à ceux qui puissent quitter, ils n'ont pas voulu. Maintenant, c'est maintenant la charge de la communauté. Donc, c'est la communauté qui prend cette charge présentement pour que ces jeunes gens puissent être donc sensibilisés et pour qu'ils quittent la forêt. Donc, oui. C'était ça.
Oui, madame, vous dites que c'est la recrudescence de l'insécurité à Wali-Calais qui vous a poussé, n'est-ce pas, à envisager la tenue de ces dialogues. Nous savons que l'insécurité est récurrente dans ces territoires depuis plusieurs années. Pourquoi vous avez attendu ces moments? Pourquoi vous n'avez pas envisagé ces dialogues depuis longtemps?
Bon, on n'a pas envisagé seulement aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps bien sûr, mais comme il y avait intégration, il y avait recrutement, on pensait que ces jeunes gens allaient accepter et quitter la forêt pour s'intégrer dans l'armée loyale ou soit dans la vie civile. Mais vu ce qui s'est passé, on a tenu une table ronde, cette table ronde-là, et c'était à Wali-Calais. Et si on peut commencer un peu plus loin, on peut dire qu'il y avait une conférence de Goma en 2008, la table ronde de Wali-Calais en 2010, il y a eu les journées sociales de paix et de sécurité organisées toujours à Wali-Calais dans le secteur de Bakano à Itebero en 2013, ainsi que une rencontre qui a eu lieu à Manguère dans les groupements Walo à Luanda. Merci. En 2015. Mais ça n'a pas donné de fruits qui étaient palpables. C'est pourquoi on a dit que, comme ces jeunes ne veulent pas comprendre, maintenant, les communautés s'engagent parce que ce sont leurs enfants, leurs filles, pour que cette fois-ci, ils puissent sensibiliser ou soit interpeller leurs filles, chacun dans sa famille, pour que ces enfants puissent définitivement donc déposer les armes.
Madame.
Et pour éviter aussi que lorsqu'il y aura opération, ils commencent à se lamenter que non, vous n'avez pas donné le temps pour que nous puissions nous-mêmes appeler nos enfants. C'est ainsi que nous avons dit, assurons-nous pour que nous puissions trouver une solution définitive cette fois-ci et que les élections puissent se passer dans un climat de paix. C'est pourquoi nous nous sommes dit, en tout cas, nous nous engageons, nous, le gouvernement, nous allons accompagner ces communautés.
Madame.
Pour que ces enfants puissent quitter définitivement.
Le dialogue social s'est clôturé le dimanche dernier. Quelles sont les recommandations issues de ces forums?
Bon, cette fois-ci, nous avons refusé des recommandations. Nous avons dit qu'il y en a eu beaucoup de recommandations. On disait non, le gouvernement provincial va faire ceci, le gouvernement central c'est là, la communauté internationale. Pas d'engagement. Donc, pas de recommandations plutôt. C'est un acte d'engagement signé par les communautés et c'est toutes ces recommandations qu'on donnait à telle ou telle autre organisation, c'est maintenant les recommandations de communautés, donc c'est un engagement. Donc total pour éradiquer tout ce qui se passe dans le territoire de Walikale et qui provoque donc le déplacement de ces populations.
Oui, il n'y avait pas des recommandations, il y avait plutôt un acte d'engagement signé par toutes les communautés. Et vous demandez aux groupes armés locaux, n'est-ce pas, de pouvoir déposer les armes et de pouvoir cesser les hostilités sans condition. Madame, vous êtes certaine que ces groupes vont capituler sans pour autant, n'est-ce pas, on sait que c'est des groupes qui ont des revendications. Vous pensez que le fait de la demander de déposer les armes sans poser des conditions, cela suffit, hein? Vous ne pensez pas qu'ils doivent, n'est-ce pas, poser des conditions dans le sens de voir leurs revendications plus en compte?
En tout cas, monsieur le journaliste, nous avons été clairs dans ce dossier et nous avons dit clairement que le gouvernement ne va pas accepter des cahiers de charges comme ça se faisait auparavant. Donc, on avait attendu qu'ils puissent sortir des cahiers de charges, ils n'ont pas oublié. Ce sont des enfants de la famille.
Madame? Madame, essayez de bouger un peu, hein, votre ligne se détériore, hein. Essayez de bouger un peu.
Oui, merci beaucoup.
Oui, allez-y, madame.
Oui, je disais que cette fois-ci, on n'a pas accepté qu'il y ait des cahiers de charges. Parce qu'on en a eu le temps, et puis ceux qui sont dans la forêt, on attendait leur cahier de charge depuis longtemps, ils n'ont pas voulu quitter. Et maintenant, là, que c'est terminé avec tout ça, nous attendons les opérations, il n'y a plus question des cahiers de charge. Qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent adhérer dans le gouvernement, donc dans l'armée, qu'ils soient recrutés, et soit qu'ils soient formés comme tant d'autres, et s'ils veulent la vie civile, qu'ils soient démobilisés une fois pour toutes. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, rester dans la forêt, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement, ils ne font que tracasser la petite population.
Merci, madame.
Il n'y aura pas question de cahier de charge. C'est ce qui s'est dit dans la rencontre qui a eu lieu à Walikale.
Merci, madame. Prince Kiangi, je rappelle que vous êtes secrétaire général des BDOA, Bureau d'études et d'appui au développement du territoire de Walikale. Vous êtes parmi les notables qui se sont investis dans l'organisation de ces dialogues. Et à l'issue de ces dialogues, vous recommandez, n'est-ce pas, aux groupes armés de déposer les armes et de cesser toute hostilité sans condition. Comment vous analysez cet appel fait à l'endroit de ces groupes armés?
Oui, merci Monsieur Guy. Je salue l'honorable Juvenal Mounoubo, Madame l'administratrice du territoire de Walikale, et j'en profite pour exprimer mes sentiments de compassion à toutes les populations de Walikale qui sont présentement en déplacement. Parce que récemment, il y a eu des conflits dans le groupement Waloa Uroba. Il y a eu des populations qui se sont déplacées en Sindo, Mera, Kilungu, Braza, Viungu. Partout là, il y a des populations qui ont été contraintes au déplacement. Ça, c'est vraiment, ça nous touche au cœur et nous disons à ces groupes armés, vous, nos enfants, vous, nos fils, vous n'avez aucune raison d'obliger des populations à se déplacer pendant que dans Walikale, il n'y a pas d'ennemi contre qui nous sommes en train d'organiser une quelconque guerre. Et je voudrais donner une précision, comme Bernardine Aï a le souligné, c'est que le dialogue social n'a pas été organisé par le gouvernement provincial. Non, nous avons eu l'accompagnement et l'appui du gouvernement provincial, mais l'activité a été organisée par principalement les communautés de Walikale, mais à l'initiative du BDOA, qui est le Bureau d'études et d'appui au développement du territoire de Walikale. Et comme Madame l'administrateur le disait tantôt, l'activité n'a pas consisté à formuler des recommandations à l'attention du gouvernement pour demander au gouvernement de faire X, Y, Z obligations ou à la communauté internationale de résoudre les problèmes des groupes armés dans le Walikale, mais beaucoup plus nous disons que la plus grande responsabilité nous revient. La communauté internationale a déjà fourni assez d'efforts, le gouvernement mêmement, mais nous disons présentement il est le moment pour que la communauté tout entière puisse renouveler son engagement pour mettre fin une bonne fois au phénomène groupe armé dans le territoire de Walikale. Et nous, on n'a pas recommandé
on n'a pas donné des recommandations à l'attention des groupes armés, mais nous avons exigé des groupes armés de cesser toutes les hostilités sans aucune condition. Parce qu'aucune raison ne justifie que des populations innocentes soient déplacées dans le Walikale. Nous savons que dans presque les trois quarts du territoire de Walikale, il y a plus la présence des FDLR. Parce que dans le temps, ce qui justifiait la prise d'armes par ces groupes armés était la présence des FDLR. Mais présentement, les FDLR ne se retrouvent que dans le groupement Kitimba, Kikobo et une partie de Oussala. Et donc, dans le groupement Uroba, groupement Yungu, groupement Waloa-Loanda, groupement Utunda, groupement Luberike, groupement Bakano, Bakondo, Bakusu, ici, Banabangi, là où il n'y a plus la présence des FDLR, ne justifie plus également la présence des groupes armés locaux. Et nous avons exigé de ces groupes armés de cesser toutes les hostilités et d'abandonner la voie des armes. Et donc, ce n'est pas une sollicitation, ce n'est pas une demande, mais plutôt une exigence.
Oui, vous exigez à tous les groupes armés, n'est-ce pas, de pouvoir cesser les hostilités sans condition. Vous êtes de là, de Walikale. Que revendiquent ces groupes armés qui sévissent à Walikale?
Nous, en fait, dans notre rencontre, on n'a pas même voulu savoir ce que demandent ces groupes armés. Parce que, comme je le disais tantôt, aucune raison, aucune demande ne peut justifier le déplacement des populations de Walikale, sachant que dans bon nombre de groupements de Walikale, il n'y a pas des FDLR, parce que c'est la présence des FDLR qui était beaucoup plus soulevée comme la raison principale de la création des groupes armés. Et quand il n'existe plus de groupes armés dans les trois quarts de Walikale, que donc la conclusion serait que dans les trois quarts de Walikale, il n'y a plus de groupes armés locaux.
Alors, vous dites que vous n'avez même pas voulu connaître les revendications des groupes armés. Vous pensez que les solutions que vous allez proposer seront des solutions idoines à partir du moment où vous refusez même de tenir compte des revendications de ces groupes armés?
Je crois que les cahiers de charges souvent présentés par ces groupes armés sont connus de tous. Le gouvernement le connaît, la communauté internationale en a une idée sur ces cahiers de charges. Nous, la communauté ou les notabilités de Walikale, nous avons une idée sur les cahiers de charges présentés depuis 2008 à la conférence de Goma. Et si autant d'années après, aucune solution n'a été trouvée au contenu ou aux demandes formulées dans ces cahiers de charges, est-ce qu'aujourd'hui que nous, communauté, nous allons répondre à toutes ces demandes? Ces demandes souvent sont adressées au gouvernement, mais elles ne sont pas adressées à la communauté. Et donc si nous nous mettons à demander quelles sont les exigences des groupes armés, mais des demandes qui sont adressées au gouvernement, nous on n'aura pas de solution. Mais nous disons, vous, nos enfants, si vous avez des cahiers de charges, vous avez des demandes que vous avez formulées à l'attention du gouvernement, et que le gouvernement ne vous répond pas à toutes ces demandes, est-ce une raison de nous tuer? Est-ce une raison de créer des mouvements de population dans Walikale? Est-ce une raison d'inquiéter nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos petits-enfants? Imaginez même les enfants de bientôt n'ont pas passé les TENAFEP. Est-ce c'est parce que le gouvernement n'a pas répondu à ces cahiers de charges qu'il faut empêcher ces enfants de ne pas passer les examens? C'est pas une raison. Et si dans le gouvernement on n'accepte pas que on donne des grades à ces groupes armés, est-ce une raison pour ces groupes armés de nous tuer, nous, leurs parents? Non, c'est pas une raison.
Merci,
donc,
prince.
Nous, on n'a pas même besoin de demander quelles sont vos questions, quelles sont vos plaintes, quels sont vos désirata présentés au gouvernement, parce que ça ne nous concerne pas. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la paix, et rien que la paix.
Merci, Prince
Kiyangi. Il n'y a pas de préalable pour avoir la paix dans Walikale.
Merci, Prince Kiyangi. Maître Juvenal Mounoubo Moubi, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition élu de Walikale. Vous êtes aussi cadre du parti politique UNC. Comment vous analysez cette démarche qui consiste, n'est-ce pas, à organiser un dialogue pour ramener la paix dans Walikale?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je voudrais tout d'abord saluer Madame Marie-Claire Bangouéné, administrateur du territoire, ainsi que Monsieur Prince Kiyangi du bureau BDOA. et les remercier, les féliciter pour leur implication dans l'organisation du dialogue. Vous savez, Monsieur Guy, le dialogue social, c'est une question importante, c'est une chose, une très bonne chose qui a été réalisée à Walikale. Pourquoi ? Parce que pour vaincre les groupes armés, pour établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire de Walikale, eh bien, il ne faut pas oublier l'aspect sensibilisation. C'est important. D'ailleurs, ça peut donner beaucoup plus de force à l'armée et aux efforts du gouvernement qui vont dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État.
Sensibilisation de la population.
Oui, oui. Donc, la sensibilisation des groupes armés. La sensibilisation, les leaders s'impliquent à sensibiliser les groupes armés. Hein, parce qu'il est dit dans l'acte d'engagement qu'ils s'engagent à sensibiliser les fils et filles, et leurs fils au fait, et peut-être filles qui sont dans les groupes armés, à quitter ces groupes et à déposer les armes. Donc l'aspect sensibilisation, lorsqu'on cherche à restaurer l'autorité de l'État, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi ? Parce que ça peut aider effectivement à donner beaucoup plus de force aux efforts qui sont en train d'être fournis. Et pour ça, je crois que le gouvernement devrait le féliciter. Il devrait les féliciter, mais ce qui reste, c'est quoi? Il faut des mesures d'accompagnement, il faut les suivis de toutes ces résolutions qui ont été prises au cours du dialogue social, et je crois que le gouvernement congolais ne devrait pas tarder à lancer les programmes DDR3. C'est vrai que la présentation officielle du programme a déjà eu lieu, mais la matérialisation de ces programmes, à l'occurrence ici dans les territoires de Walikale, je crois que c'est opportun. Pourquoi ? Parce que les actions de sensibilisation vont continuer. Eh bien, ceux-là qui accepteront de déposer les armes, eh bien, il faut qu'ils soient orientés dans des programmes de démobilisation et réinsertion, réintégration communautaire. Et donc, c'est à ce niveau-là que le travail ne s'arrête pas. Il y a une première étape qui vient d'être réalisée. Il appartient au gouvernement de faire le suivi, d'accompagner les comités de suivi de ces résolutions, de lancer les programmes DDR et de voir dans quelle mesure on peut arriver à une économie de vie et surtout à réintégrer ces éléments des ex-groupes armés dans la vie sociale, et les récalcitrants devront nécessairement subir les faits.
Maître Général Nouveau Moubi, les participants à ce dialogue social n'ont pas cajolé les groupes armés. Hein. Vous avez suivi Madame Marie-Claire, administratrice du territoire de Walikale, qui dit « Nous n'avons pas formulé des recommandations à l'endroit des groupes armés, nous avons exigé à ces groupes armés de pouvoir déposer les armes. » Et vous avez suivi le prince Kiangi qui dit qu'ils n'ont même pas voulu connaître, n'est-ce pas, les revendications de ces groupes armés. Ils estiment que ces gens doivent déposer les armes parce qu'il n'y a pas de raison qui explique que l'on doit continuer, n'est-ce pas, à utiliser les armes. Et comment vous analysez, n'est-ce pas, l'attitude des participants à ces dialogues?
Je crois qu'ils ont bien agi parce que ils vivent les exactions des groupes armés. Et je l'ai toujours dit, les groupes armés, ce ne sont pas des capitaux ou des investissements en territoire de Walikale. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin des groupes armés. Eh bien, dire qu'ils devraient examiner, s'ils s'étaient donné l'idée, par exemple, j'ai dit, une hypothèse, d'examiner les cahiers des charges des groupes armés, eh bien, ils auraient agi au-delà, au fait, du travail qui est attendu, du rôle qui est le leur. Leur rôle, c'est, en tant que parents de ces coins, de dire à ces enfants qui prennent les armes, qui ont été enrôlés dans les groupes armés, de déposer les armes sans condition. Alors, ils n'appartenaient pas donc à ses leaders de lever une option de négociation avec les groupes armés. Et d'ailleurs, il faut préciser ici que le gouvernement congolais, si j'ai bonne souvenance, a laissé tomber l'option de négocier directement avec les groupes armés, mais d'orienter ceux qui acceptent de déposer les armes, de suivre des programmes de réinsertion communautaire. Mais mon inquiétude, c'est que les programmes de réinsertion communautaire tardent à se matérialiser. Et en tant que député, j'ai le pouvoir et je profite de cette occasion pour demander à ce que le programme de DDR3 s'accélère et que les actions de sensibilisation s'accompagnent à maintenant une capacité de feu. Pourquoi ? Parce que tous ne répondront toujours pas favorablement à la sensibilisation. Il y aura peut-être des récalcitrants et là, il faudra appliquer le feu. Mais au finish, il faut donner l'encadrement à ceux-là qui accepteront de quitter la brousse, parce qu'ils peuvent quitter la brousse, mais s'ils ne sont pas encadrés dans la vie sociale, là c'est une autre chose à régler, c'est un autre problème à régler.
Et 300 participants, parmi lesquels aucun représentant, n'est-ce pas, de ces groupes armés, comment vous comprenez cela?
Je ne sais pas. Il faut peut-être lire les rapports des assises en question. Mais je crois que ceux qui ont participé, il doit y avoir nécessairement soit une revendication de ceux-là qui sont dans la brousse. Je ne sais
pas. Ils auraient souhaité, n'est-ce pas, participer à ces dialogues, mais bon, peut-être que c'est du côté du gouvernement où on n'a pas tenu compte de ces souhaits.
Vous savez que c'est assez délicat. Pendant que le gouvernement est en train de traquer les groupes armés, ce n'était pas si aisé que les délégués des groupes armés, invités par des communautés, arrivent au chef-lieu du territoire de Walikale. Mais je crois que les groupes armés n'aient pas été présents à Walikale pour les assises. Ce qui est important pour moi, c'est des engagements, comme l'a dit l'administrateur du territoire de Walikale. Donc, ils n'ont pas recommandé que voilà, les gouvernements doivent faire ceci, les parlements doivent faire cela. Mais à leur niveau, ils se sont dit prêts à sensibiliser. Et c'est là où le gouvernement doit les accompagner. Pourquoi? Parce que je me rappelle que ce n'est pas la première fois que les leaders de Walikale se disent prêts à sensibiliser les groupes armés. Et je crois qu'ils l'ont dit il y a de cela une année et demie ou deux ans, mais le gouvernement ne leur prête pas main forte directement avec des actions bien ciblées, aller par exemple en Toto, aller à Ihana, rencontrer les seigneurs des guerres et leur dire de déposer les armes et que le gouvernement prenne des mesures pour orienter dans la vie civile ceux qui veulent bien retourner dans la vie civile.
Et à partir du moment où les différentes communautés ont signé cet acte d'engagement et les groupes armés, n'est-ce pas, qui sont à la base de l'insécurité, n'ont pas signé cet acte, bon, ces groupes vont se sentir pas du tout concernés par cet acte. Est-ce que vous pensez que le fait de signer cet acte-là va ramener la paix dans cette partie du pays?
L'acte ne suffit pas, c'est ce que j'ai dit. C'est une étape. Hein. C'est une étape réalisée par les leaders, les fils et filles ressortissants de Walikale. La prochaine étape, il appartient au gouvernement de dire, voilà, vous, éléments des groupes armés, vous, responsables ou seigneurs des guerres, comme on les appelle, il y a des opportunités pour vous de retourner dans la vie civile. Nous avons besoin de votre énergie, mais que cette énergie ne serve plus à tuer, à faire des embuscades sur les axes routiers ou à ériger des barrières et à percevoir des taxes, eh bien, nous avons besoin de votre énergie, par exemple, pour les travaux de réhabilitation des routes. Parce que, comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, c'est un territoire enclavé. Et il est difficile de penser développement lorsqu'il n'y a pas de sécurité, il y a enclavement. D'ailleurs, l'enclavement accentue l'insécurité. Donc, il faut un relais de ce travail. Et le relais doit venir de Kinshasa, et le relais doit venir de la province. Donc, les autorités doivent prendre cette initiative. Une façon d'encourager ce travail, ça serait effectivement d'accélérer les actions de sensibilisation, de déployer l'armée. Pourquoi? Parce que les groupes armés peuvent déposer rapidement lorsqu'ils voient aussi une capacité militaire dissuasive à Walikale. On ne sait pas comprendre qu'il y a des mois et des mois, Cheka se bat contre Guidon dans les groupements Yana, l'armée n'intervient pas, ne lance pas un assaut, tout comme en Toto, là où se battent les Raya Mutomboki, ainsi que les groupes de Kifuafua.
Merci, honorable. Madame Marie-Claire Bangwene, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Wame de Bukavu, au sud de Kivu. Les recommandations issues de ce forum tenu récemment à Walikale sont à saluer. Néanmoins, je ne pense pas qu'elles soient suffisantes pour pouvoir résoudre efficacement les problèmes sécuritaires que connaît cette partie de la RDC, tant que le gouvernement congolais ne manifestera pas la volonté politique de satisfaire de manière positive et réelle aux différentes revendications que lui ont toujours présentées les miliciens locaux. Autrement, on serait tout simplement en train de résoudre des problèmes non en amont, mais en aval.
Madame Marie-Claire Bangwene.
Oui, monsieur Guy. Oui, je viens de suivre le message, soit la préoccupation du monsieur qui est à Bukavu, mais je ne sais pas quels efforts encore le gouvernement peut faire, parce que je ne sais pas ce que le chef de l'État n'a pas encore fait, ou soit le gouverneur de province du Nord Kivu fait qu'il n'a pas encore fait pour que ces jeunes-là puissent quitter définitivement dans la forêt. Il y en a ceux qui ont accepté, bien sûr, et qui sont aujourd'hui des autorités militaires, et d'autres sont déjà dans la vie civile. Et ceux-là, donc les enfants qui étaient dans l'armée, qui sont déjà au banc de l'école. Pourquoi pas ceux d'autres-là qui sont dans la forêt, ne puisse pas quitter. Le gouvernement n'a pas donné une mission quelconque aux groupes armés pour que demain, puissent dire non, ou il faut nous payer ceci ou cela. S'ils ont leur cahier de charges, comment le gouvernement peut le régler dans la forêt? Comment est-ce qu'il y aura des départs ou entretiens? Qu'ils quittent d'abord, qu'ils viennent auprès du gouvernement, l'armée est là, elle est prête pour les recevoir, et la vie civile est là. Mais bon, comme l'honorable vient de le dire, que le processus là de DDR, donc DDRR puisse les recevoir. Bon, il y a un centre de transit à Waulikale. À la Waulikale centre, il y a un autre centre à Kambucha. Ces jeunes-là peuvent quitter. S'ils attendent qu'on les paye dans la forêt, ça ne sera pas possible. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Est-ce qu'ils sont en train de chasser encore les chefs de l'air? Non, mais là où ils sont en train de s'entretuer d'abord eux-mêmes, de tuer leur mère, de violer leur fille. Et donc, est-ce que c'est ça la récompense? Et est-ce que si tu n'es pas payé, comme Prince Yang l'a dit, si tu n'es pas payé, il faut tuer ton frère? Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Si nous sommes là, nous sommes là pour les demander de quitter. Parce qu'après ça, ça sera d'autres processus que le gouvernement provincial et le gouvernement central. Ils vont prendre des dispositions. Parce qu'on ne peut pas en tout cas continuer dans ce genre de choses. Nous savons bien sûr que quelques entités sont enclavées, mais le gouvernement est en train de mettre les batteries en marche. Il y a déjà les routes qui sont en train d'être réhabilitées par le gouvernement provincial sur les deux axes. Même si c'est par méthode du mot, nous savons qu'il y aura aussi d'autres partenaires qui vont intervenir et ça va se décanter.
Madame Marie-Claire,
ce soir,
vous avez dit que le gouvernement a tout fait, n'est-ce pas, pour essayer de persuader ces jeunes à pouvoir déposer les armes, à pouvoir quitter la brousse. Il y a Robert Kabandani de Bukavu qui dit ceci: et si on n'instaure pas l'autorité de l'État, toutes ces mesures prises ne peuvent pas ramener la paix. Comment vous réagissez à cette réflexion?
Oui. Il peut avoir quelque part raison pour la restauration de l'autorité de l'État. Mais ces jeunes-là, est-ce que ce qu'ils font là-bas, c'est ça la restauration de l'autorité de l'État? Lorsqu'ils sont en train de s'entretuer là-bas, comment une autorité peut être sur place? En tout cas, il y avait le chef de groupement, les chefs locaux étaient là. Il y avait même un chef de poste d'encadrement administratif avant qu'on puisse prendre des mesures pour la suspension des chefs de poste.
Merci, madame.
Mais c'est eux-mêmes, ces chefs-là, qui les ont chassés. Pourquoi ils les ont chassés? Il y avait l'autorité sur place.
Merci, madame. Prince Kiangi, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Lubumbashi.
Patrick Mbouli, Kassama, depuis Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. Nous avons les FRDC, la MONUSCO et les services de renseignement, depuis une dizaine d'années, n'arrivent pas à dissuader ces groupes armés qui ne cessent d'endeuiller les familles dans la province orientale, dans le nord et sud Kivu, notamment dans le nord de l'ex-Katanga. Il y a une question que nous devons nous poser, nous Congolais. Qui sont derrière ces terroristes et qui les financent? Et si les hommes politiques congolais ou étrangers seraient derrière ces gens, le sang innocent tombera sur leur tête et ils en paieront le prix. La meilleure solution efficace pour décourager les jeunes de ne pas adhérer au sein de ces groupes armés, c'est aussi la création d'emplois pour les jeunes et le financement des projets de développement conçus par les jeunes pour espérer une solution efficace. Sinon, ça sera un forum de trop et il n'y aura pas de résultats escomptés.
Prince Kiangi, votre réaction? Allô, Prince Kiangi? Voilà. Honorable Juvenal Munubu Mubi, la question des groupes armés à Walikale, c'est une nébuleuse, c'est une panoplie de groupes armés avec des intérêts divergents, ils font et défont des alliances, et certains sont même accusés de bénéficier des appuis des puissances étrangères. Vous venez de suivre même l'auditeur qui vient de parler, et vous ne pensez pas que cet aspect devrait aussi être pris en compte, n'est-ce pas, pour espérer ramener la paix dans cette partie du pays? Les connexions avec l'extérieur.
Tout à fait. Et ça nécessite effectivement des études approfondies. Vous savez, ailleurs, l'armée mènerait des études approfondies sur ça. Le gouvernement réaliserait des études approfondies, les universités, etc. Et puis, je crois qu'il faut tout un plan opérationnel de sécurisation de l'Est, avec un œil sur les élections. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la veille des élections, les rendez-vous électoraux. Cette année, en principe, il est censé être des élections qui devaient être organisées. Et l'année prochaine, il y a l'année électorale avec le présidentiel. Eh bien, il faut tout un plan opérationnel de sécurisation de l'Est du Congo et de sécurisation par voie de conséquence des élections. Un plan qui est financé, un plan qui est exécuté, en concertation, en synergie avec différents partenaires, gouvernement, parlement, société civile, communauté internationale. Il faut un plan comme ça. Parce que moi, je vois que à l'allure où vont les choses, où il y a des foyers de tension, à Walikale, moi, j'identifie 3 foyers de tension. Il y a le groupement Yana qui est un foyer de tension entre NDC de Cheka, NDC rénové de Guidon. Et deuxième foyer de tension, Toto, où il y a les Raia Mutomboki et les Kifuafua. Il y a aussi un autre foyer de tension, c'est là où sont concentrés les FDLR. C'est dans la partie nord. Nord-nord-est, groupement Ikobo, une partie de Kisimba. Et ça, c'est Walikale. Lubero, il y a des foyers de tension. En Ituri, de même, au nord Katanga. Il faut tout un plan opérationnel avec des actions ciblées, avec un financement, de façon à permettre que les élections s'organisent dans un climat pacifique. Voilà un peu. Ça, c'est une vision beaucoup plus large. Ce que les communautés ont fait, ce que les leaders ont fait, c'est déjà une étape, mais qui doit être soutenue par les gouvernements, et le gouvernement doit manifester une volonté politique.
Honorable, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kinshasa.
Patien Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Un dialogue du genre serait à encourager partout où il y a insécurité dans la mesure où le gouvernement central s'y impliquait, car la matière à l'ordre du jour est de la compétence exclusive de ces derniers. Faudra-t-il parler alors de l'incapacité ou de l'irresponsabilité de Kinshasa du fait qu'un territoire arrive à prendre des initiatives dans sa mission régalienne? En quoi la paix dans cette petite partie du pays influencerait tous les pays, étant donné qu'il y a d'autres poches de sécurité dans d'autres coins de la dite province et sur toute l'étendue du territoire national?
Maître Juvenal Monogoumoubi.
Je crois qu'il a raison. Lorsque les leaders au niveau de la communauté, ils voient que, en fait, on est menacé, c'est l'existence même qui est menacée. Lorsqu'il y a des gens qui sont morts, des habitants qui sont tués par des éléments des groupes armés, la réaction du gouvernement, la réaction de l'armée, de la police se fait toujours attendre. Je vous parlais tantôt de ces 2 foyers de tension que sont les groupements Yana et les groupements Wallo à Uroba. Il y a des mois et des mois qu'il y a des affrontements, il y a des déplacés, mais l'assistance du gouvernement tarde à venir. Je parle de l'assistance humanitaire, les renforcements des effectifs des FRDC et la traque effective de ces groupes armés tarde à venir. Eh bien, pour la self-defense, comme on dit, lorsqu'on est menacé, eh bien, on trouve un mécanisme d'autoprotection. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi les dialogues. Les leaders se disent, mais eh bien, on ne doit pas nos responsabilités. Voyons ce que nous pouvons faire à notre niveau. C'est un peu ça. Ils ont été animés par... Ils se sont posé cette question. Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Et il faut alors que le gouvernement appuie ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, c'est aller rencontrer les groupes armés, lancer les messages de paix. Et pour ça, c'est des actions que le gouvernement devrait appuyer. Mais vous verrez que plusieurs mois vont se passer sans que ces actions ne soient appuyées par les autorités. Et le gouvernement doit appuyer cela. Voilà.
Merci, Prince Kiangi. Il y a cette réaction qui vient de Lubumbashi pour vous.
Patrick Mbouli, Kassama, depuis Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. Nous avons les FRDC, la MONUSCO et les services de renseignement, depuis une dizaine d'années, n'arrivent pas à dissuader ces groupes armés qui ne cesse d'endeuiller les familles dans la province orientale, dans le nord et sud Kiv, notamment dans le nord de l'ex-Katanga. Il y a une question que nous devons nous poser, nous Congolais. Qui sont derrière ces terroristes et qui les financent? Et si les hommes politiques congolais ou étrangers seraient derrière ces gens, les sangs innocents tombera sur leur tête et ils en paieront le prix. La meilleure solution efficace pour décourager les jeunes de ne pas adhérer au sein de ces groupes armés, c'est aussi la création d'emplois pour les jeunes et le financement des projets de développement conçus par les jeunes pour espérer une solution efficace. Sinon, ça sera un forum de trop et il n'y aura pas de résultats escomptés.
Prince Kiangi.
Oui, en fait, je ne voudrais pas trop revenir sur la responsabilité du gouvernement ou de l'État congolais par rapport à cette question, parce que je me dis, si il faut se poser des questions sur l'approvisionnement en armes et en munitions de ces groupes, est-ce à Walikale, il y a une quelconque usine qui produit des armes? Y a-t-il une usine qui fabrique des uniformes militaires? Parce que au cours de cette réunion, moi-même, j'ai vu une photo, hein, des éléments d'un groupe armé qui sont en tenue neuve avec des armes lourdes. Et je me dis, dans quel coin du territoire de Walikale on fabrique des armes? Dans quel coin du territoire de Walikale on fabrique des uniformes militaires? Et donc, cela doit nous ramener à conclure que ces uniformes, ces armes, munitions viennent de quelque part en dehors de Walikale. Alors, si nous nous mettons à nous poser des questions sur l'approvisionnement de ces armes et munitions, nous allons nous perdre. Parce que même si on dénonçait celui qui serait auteur de cet approvisionnement, nous, comme communauté, on n'a pas tous les moyens nécessaires de l'entrer en justice et de le faire condamner et que celui qui sera condamné puisse purger toute sa peine. Et donc, nous, c'est loin de notre débat. Et nous nous disons, à notre niveau, qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire? Est-ce qu'il faut soulever des questions comme celle de la prise en charge de l'emploi des jeunes pour que ces jeunes n'aillent plus dans les groupes armés ou ne créent plus de groupes armés? Loin de là, nous disons, est-ce par manque d'emploi, vous êtes autorisé de prendre une arme et de tuer votre mère? Non. Est-ce que tout le monde qui est dans la vie civile est satisfait pour ne pas prendre une arme? Moi, personnellement, princesse, vous croyez vraiment que je suis satisfait dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai, pour ne pas prendre les armes?
Prince
donc,
Kiangi,
le manque d'emploi n'est pas vraiment une raison de prendre une arme et tuer sa mère, tuer son père, tuer son petit frère. C'est pas une raison.
Prince
Mais
Kiangi,
à notre niveau, nous pouvons nous
Prince
dire,
Kiangi,
qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui.
Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous allons vous demander de conclure. Hein. Vous pensez que ces dialogues pourraient permettre le rétablissement de la paix dans Walikale?
Affirmatif. Parce que déjà demain, nous allons devoir nous rendre en Toto, en Sindo, à Kilungu, les sites qui ont été trop affectés par le conflit de ces groupes armés. Et je me dis, s'il s'agit vraiment d'une question d'emploi, mais dans le conflit entre Guidon et Sheka, mais ils s'entretuent pour quelle cause? Est-ce que c'est par manque d'emploi ou parce qu'ils ont d'autres raisons en dehors de l'emploi? C'est donc aucune raison ne justifie la mort d'homme dans Walikale. Et si je reviens sur ce que disait le ministre de la Communication, M. Lambert Mende, il disait que nous devons faire l'économie des vies humaines. Et donc il faut cesser avec l'usage des armes.
Merci, Prince.
Avec des voies pacifiques, nous pouvons amener à pacifier Walikale. Et Walikale, c'est un grand territoire qui est très riche dans la province du Nord Kivu.
Merci,
donc,
Prince.
Aucun jeune de Walikale.
Madame Marie-Claire Bangouéné, vous allez aussi conclure. Hein. Vous pensez que ce dialogue pourrait permettre le rétablissement de la paix dans Walikale?
Oui, Monsieur Guy, je l'espère bien. Oui, je sais qu'avec ce qu'on s'est dit et avec l'engagement des communautés, donc il y aura vraiment un changement. Parce qu'on nous a demandé d'aller sur les lieux, donc en commençant par Toto, nous aussi, le territoire, ainsi que le gouvernement provincial, nous allons les suivre. parce que nous étions à un dialogue avec le représentant du gouverneur de province, qui est le ministre de l'administration du territoire, qui nous avait accompagnés jusqu'à la fin. Donc,
merci, madame.
Nous avons l'espoir que ça va nous donner un bon fruit et un bon résultat.
Merci, madame.
Il n'y aura pas moyen de mettre un militaire devant chaque poste.
Merci, madame. Maître Juvenal Mounoubo, est-ce que ce dialogue pourrait permettre le rétablissement de la paix à Walikale? Vous avez parlé d'un plan opérationnel de sécurisation de l'est du pays.
Oui, je crois simultanément il faut renforcer la présence de l'armée à Walikale. Il faut appuyer les actions de sensibilisation parce que il faut la pression militaire à côté de la sensibilisation. Et je pense aussi qu'il faut rouvrir les axes routiers parce que l'inaccessibilité accroît l'insécurité. On le dira jamais assez. Je pense aussi qu'il faut accélérer la mise en œuvre du DDR. Il faut ouvrir des centres de métiers de façon à occuper, à encadrer cette jeunesse pour qu'elle ne soit pas demain après demain tentée de rejoindre l'armée.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suivi du programme sur Radio Okapi.